Merci de votre présence, Puyata Nouva. Je suis très content d'être dans cette jolie salle pour évoquer un sujet complexe, difficile par moments, et qui a, pendant des siècles, du moins un certain nombre d'années, hanté l'imaginaire alsacien, mais aussi européen. Alors, comment est-ce qu'on est amené à parler de sorcellerie ? Tout simplement parce que ça fait 30 ans que j'étudie les croyances populaires en Alsace, les légendes, mais aussi parce que l'année dernière, j'ai été associé à une grande exposition que vous avez peut-être visitée à Anglot, dans les ateliers de la Seigneurie. Nous avons, à trois commissaires, travaillé pendant un an à préparer cette exposition absolument magnifique, qui a donc été présentée pendant 3 mois. Elle a attiré pas tout à fait 5000 personnes, ce qui est un signe d'un grand intérêt, une grande curiosité pour ce sujet. Il y a une brochure qui est sortie, que vous pouvez acheter aux ateliers de la Seigneurie à Anglot. La deuxième chose, c'est que vous avez ce numéro de Saison d'Alsace qui est sorti récemment, qui est une excellente synthèse sur le sujet. J'y ai participé sur le plan de l'imaginaire, puisque c'est un peu mon domaine. C'est une très très bonne synthèse sur la question. Je vous ai apporté d'autres ouvrages que vous pourrez regarder de près, consulter si ça vous intéresse, avec deux ouvrages de deux ethnologues qui travaillent sur l'imaginaire et la sorcellerie populaire en France. D'un côté, Dominique Camus, qui est un meilleur spécialiste, il a publié un ouvrage sur la sorcellerie dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas les procès, mais comment ça fonctionne aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est cet ouvrage d'une grande ethnologue qui s'appelle Jeanne Favresada, qui a écrit cet ouvrage qui est la synthèse de son journal de 10 ans d'enquête sur la sorcellerie dans le milieu rural de la Vendée. Les mots, la mort et les sorts. Excellent ouvrage s'il en est. Enfin, il y a quelques années, à Paris, aux éditions de La Nuée Bleue, cet ouvrage de Jacques Rurig, L'Holocauste des sorcières d'Alsace, c'est un inventaire de tous les procès qu'il a pu dépouiller et il est arrivé à 1600 personnes exécutées pour sorcellerie en Alsace. Chiffre donc qui est lié aux documents d'archives. 86% ce sont des femmes, nous y reviendrons. Et c'est vraiment un document tout à fait remarquable qui reprend toute la thématique que je vais aborder ce soir et que l'on peut encore, du moins je l'espère, trouver dans les librairies. L'attaque de sorcellerie, elle, met en forme le malheur qui se répète et qui atteint au hasard les personnes et les biens d'un ménage ensorcelé. Citation de Jeanne Favresada. Deuxième citation, j'y reviendrai, que j'ai trouvée sur un magasin en face de la FNAC à Colmar. Maintenant, il n'existe plus. Qui vendait des sorcières, ces petites sorcières qu'on peut accrocher à un mur ou à l'intérieur d'une maison. Le porte-bonheur en Alsace, c'est la sorcière. C'est quand même étonnant comme formule. Enfin, une citation de l'Ancien Testament pour un peu amorcer notre réflexion. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Exode 22, verset 17. Entendons par sorcière celle qui ne pratique pas le même culte que le lié au dieu des Hébreux. Dans de nombreuses devantures de magasins de souvenirs, en vous promenant en Alsace, vous pouvez les constater, nous pouvons découvrir des sorcières qui chevauchent de jolis balais avec un chapeau pointu, jeunes ou vieilles, ce sont des poupées qui ont été réalisées. Elles sont souvent affublées d'un magnifique nez crochu, ça fait partie du stéréotype de la sorcière. Et surtout, elles ont un chapeau pointu, ce qui est un élément américain, puisqu'en Alsace, les sorcières portaient la coiffe ou la tenue traditionnelle de leur endroit ou le costume bourgeois. C'est un modèle qui date de la grande sorcière de l'Est, qui est lié au film que vous connaissez peut-être, Le magicien d'Oz. Ce grand chapeau, vous l'avez sûrement revu dans des films célèbres sortis assez récemment, celui de Gandalf, le grand magicien dans Le Seigneur des Anneaux, il porte un chapeau pointu, ou alors dans le Harry Potter. C'est le fameux chapeau qui va décider, toi tu fais partie de Serpentard, de, et ainsi de suite. Or, ce chapeau-là n'a rien à voir avec l'Alsace. C'est un chapeau américain. Les sorcières alsaciennes n'ont jamais porté ce genre de chapeau. Alors, on représente aussi la sorcière, ou les sorciers, mais surtout la sorcière, avec un balai. Le balai fait partie de l'équipement de la sorcière. Il est surtout associé à la sorcière à partir du 19e siècle, mais il y a déjà un dessin qui est publié dans le catalogue de l'Expo d'Anglo, qui remonte à 1451, où on voit des sorcières qui volent, l'une sur un balai, l'autre sur une fourche. On utilisait surtout la fourche, dit Meshkol, ou dit Hoikol, pour aller au sabbat. Nous y reviendrons dans un instant. On utilisait aussi une pelle, on utilisait toutes sortes de choses. On pouvait aussi se déplacer sur un animal, de préférence un loup, un renard, un chien, un chat et parfois même un sanglier. Alors, sur la devanture de ce magasin de souvenirs qui n'existe plus, il a été remplacé par un magasin qui vend des produits North Face, s'il vous plaît. Il y avait la formule suivante inscrite. À la sortie de l'hiver, la gentille sorcière enfourche son balai et sort du bois pour aller guerroyer et bouter dehors, entre guillemets, le vilain hiver, afin de laisser la place au gentil printemps, entre guillemets. Il est de tradition en Alsace de faire présent d'une sorcière que l'on suspend au-dessus du seuil de la maison. Première nouvelle. Elle est symbole de bienvenue et de renouveau, ainsi que dans la chambre ou les chambres des enfants, pour éloigner les mauvais esprits qui président à la destinée qui est dans chaque être. Cité tel quel, ce texte, je peux vous le dire, m'a beaucoup, beaucoup interrogé. Nous sommes vraiment devant l'inversion de l'image de la sorcière. Pendant des années, des générations, la sorcière a été associée au mal, au diable, au malheur, et maintenant elle devient gentille, elle protège la maison. C'est quand même intéressant comme évolution. Il faut bien le souligner. La crainte de celle que nous appelons en Alsace die Haxe, nous reviendrons sur le terme dans un instant, est quelque chose qui a été très présent chez nos ancêtres. Avec le diable, avec la maladie, la mort, les guerres et les fantômes, la sorcière faisait partie du monde des peurs. Surtout que la sorcière est censée, nous verrons en détail, s'attaquer non seulement aux êtres humains, mais aussi au bien, à la nature, les vignes, le blé, les récoltes, le verger, et aussi elles peuvent fabriquer de toutes pièces des orages en jetant des choses assez peu goûteuses dans un grand chaudron, genre Karaskesl, et de le faire bouillir et ensuite boum, il y a une énorme colonne de fumée qui sort et qui va se transformer en grêle. Donc le terme qu'on utilise habituellement en Alsace est die Haxe, ou de Haxer, mais plutôt die Haxe. Alors d'où ça vient? C'est un terme d'origine germanique, Hagatsusa, qui signifie celle qui chevauche la clôture, ou celui qui chevauche la clôture. On ne sait pas si c'est un être humain ou si c'est un démon qui s'arrête à la clôture qui protège la maison, puisque la clôture est une sorte d'enceinte sacrée et ce démon ne peut pas aller plus loin. Mais il chevauche, oui, il chevauche la clôture. En alsacien, on dit pour une femme « Hax », pour un homme « Haxameister ». C'est le terme qui revient presque toujours. Enfin, dans le patois roman ou belge qui est parlé derrière Kaisersberg, dans le Val d'Orbé, comme ils disent là-bas, eh bien, on dit les genaches. Ce sont les genaches. Genoche, c'est le terme qu'on utilise pour les sorcières en Lorraine francophone. Très intéressant. Enfin, le monde juif connaît aussi les sorciers et les sorcières. En effet, il y a un ouvrage qui a été édité au 19e siècle d'un habitant de Winzenheim et qui a collecté les traditions juives populaires en Alsace. Et il parle des marchevès, terme quand même très intéressant. Le docteur Cyril Katsu, que l'une ou l'autre personne ici ont connu, a publié un ouvrage qui relate ses expériences de médecin dans le Sungo après la Deuxième Guerre mondiale. Et il raconte qu'un jour, il est entré dans une maison parce qu'il avait été appelé pour venir auscultait une personne malade et il a failli se payer une paire de sabots. Hein, il ouvre la porte et paf, il y a des sabots qui tombent à côté de lui. Alors il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, mais on a cru que c'était le sorcier qui allait entrer. Et alors les gens ont dit, il dit, bah, depuis que vous êtes là, nous ne croyons plus aux sorciers. C'est quand même très intéressant. Alors les ethnologues, comme Dominique Camus, comme Jeanne Favre-Sada, comme ceux qui travaillent en Afrique, je pense à Marc Auger, eh bien, ils se sont penchés sur cette question de la sorcellerie. Et il est important de distinguer deux choses. La sorcellerie populaire, qui existe toujours, qui est présente dans la presque totalité des cultures du monde, et la sorcellerie liée au procès de sorcellerie, 16e, 17e siècle, nous y reviendrons. Donc, ils ont montré que la sorcellerie était toujours un mode d'explication de la répétition du malheur biologique. Wenn alles schief geht, es geht nichts mehr richtig, tout le monde est malade, rien ne fonctionne, au bout d'un moment, on se dit, il y a quelque chose de l'ordre de la sorcellerie. C'est Jeanne Favre-Sada, dans son étude dans le bocage vendéen, qui a observé qu'il existait en réalité une triangulation entre le sorcier contemporain, la plupart du temps invisible et anonyme, la personne qui se dit ensorcelée, ich bin verhext, et celui ou celle qui va la désenvoûter, drgeyahaxer en quelque sorte. Et elle dit, le sorcier, c'est l'être dont parlent ceux qui tiennent le discours de la sorcellerie, ensorcelé ou désenvoûteur, et il y apparaît comme sujet de l'énoncé. Ça veut dire que des sorciers, au sens strict, dans la campagne française ou ailleurs, on ne rencontre qu'extrêmement peu. La sorcellerie est un mode d'action et de représentation du monde et des forces invisibles qui l'animent. Elle est donc un phénomène culturel universel, nous venons de le voir. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un sorcier ou une sorcière? Nous parlons après des procès qui sont un registre différent. Bien, c'est un individu qui détient un pouvoir qui peut nuire à autrui ou au contraire lui venir en bien, parce que le pouvoir des sorciers et des sorcières est ambivalent. Elle peut faire le mal comme le bien, et elle peut modifier le destin d'une personne en jetant un sort. Elle va utiliser un certain nombre de codes symboliques, de traditions qui sont fixées par la culture, que parfois il ou elle invente. Vous verrez ça par exemple dans cet ouvrage de Dominique Camus, l'a enquêté sur les sorciers, les sorcières dans le monde d'aujourd'hui. C'est absolument incroyable ce qu'il a réuni comme information. La croyance dans les sorciers, les sorcières est une croyance qui existe depuis très longtemps. Les Celtes, ils ont connu, les Germains, les Romains, les Grecs, avec des noms différents. On était convaincus de l'existence de femmes qui ont le pouvoir de se déplacer la nuit. Des bébés et des petits-enfants qui échappent à la surveillance de leurs parents et qui sont encore dehors quand la nuit tombe. Et ça nous rappelle des souvenirs quand nous étions petits. Inorkuts und Inorkrop. Ces peurs que les parents nous insufflaient pour entrer à la maison quand la nuit tombe, parce que la nuit est le monde du prince des ténèbres, le diable, et que l'enlus du soir marque bien la différence entre le monde diurne qui appartient à Dieu et le monde de la nuit qui est, hélas, dominé par le diable. Et ces êtres-là font partie du cortège diabolique. Donc, Norkutz et Norkrop sont les lointains souvenirs de ces strigoi et l'ami de l'antiquité gréco-romaine. Enfin, ces êtres vont essayer de s'emparer des enfants pour les dévorer. Et l'une des accusations rituelles contre les sorcières lors des procès, c'est le rapt de petits bébés qui n'ont pas été baptisés. Parce qu'on n'a pas eu le temps de les baptiser, elles peuvent soit les dévorer, soit en faire des onguents qui leur permettront de justement faire ce qu'on va appeler les maléfices. Nous connaissons tous et toutes le fameux conte de Hansel und Gretel, qui vont dans la forêt, ils sont perdus, et puis ils sont attirés par une maisonnette avec des crêpes ou des pains d'épices, commencent à la manger, une vieille femme avec un long nez sort, et puis elle les invite à manger, elle les accueille magnifiquement bien, ils sont heureux dans leur lit, et tout à coup, cette vieille femme s'avère être une très méchante sorcière qui n'a qu'une seule intention, celle de dévorer les deux enfants. Donc là, on retrouve cette thématique, même si c'est un conte, il y a cet arrière-plan de cette dévoration dont on accusait les sorciers et les sorcières. Saint Augustin, des pères de l'Église, a repris de la tradition antique la croyance au pacte qui relie un démon à son serviteur. Un pacte, c'est une forme de contrat. Par ce pacte, la personne concernée reçoit un certain nombre de pouvoirs qu'elle va utiliser pour nuire à la société. Il y a également des personnes dont les pouvoirs permettent de fabriquer des tempêtes. C'est ce que nous appelons en Alsace die Wattraxa, celle qui fabrique les orages, et que la tradition médiévale francophone appelait les tempesteurs, des gens qui sont capables de fabriquer des tempêtes, des orages, qui vont détruire les récoltes et créer ô combien de soucis. À l'arrière-plan, il y a aussi la lutte par l'Église chrétienne contre les croyances païennes. Et ces croyances païennes, on va les diaboliser, et donc on va dire que c'est le diable qui est à l'arrière-plan. Et beaucoup de rituels de fertilité ou de fécondité qui existaient dans l'Europe pendant des siècles ont été regardés sous l'angle du diable et de la sorcellerie. Le célèbre canon Episcopi, datant de 906, dit clairement la chose suivante. Il y a des femmes méchantes qui, retournant à Satan et séduites par les illusions, les fantômes des démons, croient et avouent qu'aux heures de la nuit, elles chevauchent certains animaux en compagnie de Diane, la déesse des païens. Nous sommes bien dans un discours de diabolisation des croyances gréco-romaines. Il y a cet arrière-plan-là. Mais l'Église médiévale va mettre en place quelque chose d'extrêmement puissant. En effet, elle va assimiler la sorcellerie populaire qui existait dans le monde rural. N'oublions pas que la société, à ce moment-là, était constituée à 90% de paysans, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont peut-être encore 5% de la société, c'est-à-dire la transformation de la société. Et ils vont assimiler la sorcellerie populaire à l'hérésie. L'hérésie, c'est ne pas croire comme il faudrait croire. Et elle va lutter sans relâche contre les différentes formes d'hérésie. En 1233, elle va créer, enfin c'est un pape, qui va créer la Sainte Inquisition. Inquisition, ça signifie quoi? L'enquête. Ce sont les Dominicains, Dominicanes, les chiens de Dieu, comme ils se dénomment eux-mêmes, qui vont être chargés de cette lutte contre l'hérésie. Inquisition, ça signifie qu'on va faire une enquête pour détecter les hérétiques, Ketzer, en allemand, Katzer ou Ketzer ou Feltasich, et on va essayer d'abord de les convaincre de leur erreur, et s'ils ne sont vraiment pas récupérables, eh bien, on va s'en débarrasser en les brûlant. Et le premier groupe d'hérétiques, ce sont les disciples d'un marchand de Lyon qui s'appelle Pierre Valdès, c'est ce qu'on appelle les Vaudois, Valdenser en allemand. Qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, il prônait la pauvreté absolue, comme le Christ, il avait juste une tunique et l'accès direct aux Écritures. Et ça, l'Église ne pouvait pas l'accepter. Puis, il y aura cette lutte terrible, avec des centaines de victimes contre les Albigeois ou Cathares. Le terme de Cathares a été fabriqué par l'Église et par ceux qui ont persécuté ces personnes, qui s'appelaient les bons chrétiens ou les parfaits. Et on sait combien d'entre eux ont été brûlés, entre autres devant le château de Montségur, leur dernière forteresse. Et le terme cathares, qui signifie les purs, catharoi, catharos, les purs, eh bien, sont sans doute à l'origine du terme ketzer, ou katzer, qui désigne l'hérétique. La hantise du complot satanique, parce que derrière, c'est le diable qui agit, est une véritable contre-église, se met progressivement en place. Le terme de sabbat qu'on ne trouve pas dans les documents alsaciens. Dans les documents alsaciens, on parle de Differsammlung, la réunion. Mais bien, apparaît probablement au XIVe siècle dans les vallées alpines où les Vaudois se sont réfugiés parce qu'ils étaient un peu plus protégés contre les inquisiteurs et ceux qui les poursuivaient. Et donc ce terme va progressivement, qui est issu de la tradition juive, va être utilisé comme pour dénommer les réunions de ces fameux sorciers et sorcières. Au XVe siècle, tous les éléments de la croyance moderne, entre guillemets, aux sorcières sont en place. C'est un véritable fantasme que l'on va fabriquer de toutes pièces qui n'a aucune réalité dans le fonctionnement habituel de la société, le fait de se déplacer sur un animal, de voler sur un balai ou sur une fourche, ce sont des fantasmes. Alors, certainement que l'ingestion de certaines plantes, dont le datura, la jusquiame, la belladone et peut-être la namitumouche, aidaient à ce genre de vol. Hein. Ce sont des vols qui sont liés à l'ingestion de certaines plantes. Mais dans la réalité, ça n'a jamais eu lieu. C'est absolument impossible, nous le savons bien, sauf quand Harry Potter il vole sur son fameux balai. Mais ça, c'est du film et de la fiction. Donc, l'accusation de sorcellerie, elle va cumuler deux choses. Nous avons l'arrière-plan du paganisme qu'on va détruire. Nous avons l'arrière-plan de l'hérésie. Mais surtout, il y a deux crimes fondamentaux. Le premier crime, c'est l'apostasie. Renier Dieu et tous les saints. Après la torture, la personne accusée de sorcellerie va dire oui. On va lui poser la question, est-ce que vous avez renié Dieu et tous les saints? Oui, j'ai renié mon Jésus, la Vierge Marie et tous les saints. Crime d'apostasie, donc punissable de la mort. C'est en plus un crime de lèse-majesté envers l'empereur, Frédéric II de Hohenstaufen, puisque c'est lui qui a institué cela, mais aussi un crime de lèse-majesté divine. Et ça, ça fait partie de ces accusations fondamentales. La deuxième accusation, ce sont les maléfices, tous les malheurs que les sorcières ont fabriqués contre les humains, les récoltes, la nature, et ainsi de suite. Le stéréotype, donc c'est une sorte d'image fabriquée de toutes pièces démonologiques de l'Église, et l'appareil de répression judiciaire de la société sont prêts à fonctionner. Alors quel est le but de l'Inquisition? Le but, contrairement à la justice d'aujourd'hui, nous verrons comment ça va se terminer, eh bien, c'est non pas de réunir les preuves, mais d'extorquer les aveux. Das Bekenntnis. C'est ça qui importe. Et pour ça, on va utiliser la torture. Tout simplement, ça fait partie, hélas, des procédures judiciaires de l'époque. Donc, pour recueillir Das Bekenntnis, la confession, où la sorcière va dire « Oui, je me suis mariée avec le diable, j'ai participé à tel sabbat, j'ai jeté la grêle sur tel vignoble, j'ai fait tomber la foudre sur la maison Fleck » et ainsi de suite. Ça, c'est extorqué sous la torture, ne l'oublions jamais. La personne, donc, va d'abord être dénoncée pour être présentée au tribunal. Alors, le premier tribunal, c'est la Siebener Gericht, c'est un tribunal qu'on situé à partir du XVIe siècle, non plus par des religieux, mais par des civils. Ce sont les autorités locales. Et ce sont sept personnes qui vont donc instruire le dossier. Une fois que le Bekenntnis sous la torture a été recueilli, avec une longue liste de tous les méfaits, eh bien, on va réunir un deuxième tribunal, das Malefizgericht, le tribunal des maléfices, qui lui va prendre la décision, donc la condamnation, presque toujours à mort. Dans quelques cas, enfermé dans la maison ou expulsé de la société locale, ce qui équivaut à une mort sociale. En plus, les biens de la famille sont saisis pour payer les frais du procès. Vous doutez bien que ça alimentait certaines envies et certains appétits. En plus, on pouvait se débarrasser à moindre frais d'une sorte d'une voisine ou d'un voisin, surtout une voisine un peu embêtante. En 1484, le pape Innocent VIII publie une bulle, c'est une lettre papale, « Sumis desiderantes affectibus », désireux d'ardeur suprême de lutter contre l'hérésie. Il va, donc, il dénonce l'hérésie, il va charger l'évêque de Strasbourg, Albert de Bavière, de l'application de la bulle, et surtout, il y a deux personnages sombres qui vont intervenir. Deux dominicains. L'un s'appelle Heinrich Institoris, originaire de Celesta. Le deuxième, Jakob Sprenger, qui vont rédiger, à partir de cette bulle papale, un livre absolument abominable, un des pires ouvrages qui m'a été donné de lire avec le Mein Kampf d'un certain Adolf Hitler. Et je l'ai lu dans la traduction française, mais je vous garantis que j'en avais des cauchemars. Ils vont publier un ouvrage qui aura un énorme succès puisque n'oublions pas que c'est connexe avec l'invention et le développement de l'imprimerie qui va justement aider à développer et à diffuser les concepts de démonologie des inquisiteurs et après de la société civile. Et en 1486-87 paraît cet ouvrage sur des presses strasbourgeoises, le fameux Malleus Maleficarum ou Hexenhammer. C'est le parfait ouvrage ou le manuel du chasseur de sorcières. C'est un ouvrage absolument terrible où on dénigre, on charge de tous les maux la femme, je m'excuse auprès des dames ici présentes, Ève, le péché, bien sûr, croquer la pomme, Adam, évidemment, lui, il n'a pas participé, il a subi. C'est toute la vision de cette époque. Les gens savants étaient presque tous terriblement misogynes, parce que la femme fémina, elle a une foi mineure. Elle est beaucoup plus facile à séduire, elle est beaucoup plus attirée par tout ce qui est liquide, elle est pour la légèreté, elle comprend très vite, mais surtout elle a un grave défaut, pardon, je dis ce qui est noté, elle papote beaucoup. Et vous avez une image d'une messe où le prêtre est en train de consacrer l'hostie, vous voyez 3-4 femmes qui discutent entre elles, et l'arrière-plan, le diable qui leur dit « Ah, hop, c'est l'anoma !» Voilà, donc il y a toute une misogynie terrible qui est en place et qui va fonctionner à plein contre les femmes. C'est pour ça que 86% des personnes accusées lors des procès, eh bien, sont des femmes. À la fin du XVe siècle, une première vague de procès se met en place en Alsace. Il ne reste que peu de documents et ça va s'arrêter, tout à coup. Et c'est au XVIe et XVIIe, et non pas au Moyen-Âge, je tiens à démonter cette croyance, que ces procès vont avoir lieu. Nous sommes donc dans les temps modernes avec les humanistes, la Renaissance, la redécouverte des textes grecs et latins. Et c'est dans cette période-là, mais qui est aussi marquée par de terribles craquements de la société, la fracture protestante par rapport à l'Église catholique. On est dans une atmosphère de fin de monde. On vient de découvrir un nouveau monde, Christophe Colomb, Amerigo Vespucci et d'autres. Et puis, il y a aussi les craquements de la société. À partir des années 1570, se met en place ce qu'on va appeler la petite glaciation, c'est-à-dire que pendant des années, il y aura pluie, froid, comme on en connaît de temps en temps, mauvaise récolte, des catastrophes, et évidemment, il faut trouver des responsables. C'est le diable, comme on ne peut pas le coincer, on va coincer ceux et celles qui travaillent pour lui, les sorciers et les sorcières. En 1532, Charles Quint, l'Alsace fait partie à ce moment-là du Saint-Empire romain germanique, va édicter à Regensburg la Némésis Carolina, ou en allemand, die peinliche Halsgerichtsordnung. Voilà ce qui est dit dans un des articles. Si quelqu'un fait du tort à autrui par sortilège ou maléfice, il sera puni de mort et condamné à être brûlé. C'est d'une parfaite clarté. Et comme par hasard, à partir de 1532, les procès vont commencer. Et ils vont durer jusque vers, selon les endroits, 1682. Des milliers de personnes innocentes vont mourir sur les bûchers, brûlées vives, ce qui est une horreur absolue. En cas de clémence, qui arrivait aussi, les personnes étaient décapitées ou étranglées avant d'être brûlées. Je vous laisse apprécier la clémence. Et donc, Jacques Rurik, lui, a fait une liste de 1600 personnes accusées et condamnées à mort. Et on brûlait la totalité du corps, il ne devait en rester aucune trace, et les cendres étaient soit enterrées, soit jetées dans l'eau pour que personne ne puisse les utiliser. Et il fallait débarrasser la société du mal représenté par ces personnes. Alors, je voulais parler de la torture, c'est une procédure normale, ça nous semble absolument horrible, mais elle a été supprimée, cette torture, dans les procès, la procédure juridique, que sous le roi Louis XVI. Il l'a supprimée en 1788. Avant, c'était l'utiliser. La personne, surtout une femme, est traînée par une dénonciation devant les sept, donc le Siebenergericht, et on lui dit « Vous êtes une sorcière ». Elle va dire « Je ne suis pas une sorcière ». Si, tel voisin, voilà. Donc, il y a des témoignages, des témoins qui sont là. Elle refuse. Elle dit « Je ne suis pas une sorcière ». Ah, vous refusez de dire que vous êtes une sorcière. Pourtant, tout le monde dit que vous êtes une sorcière. Et alors, au bout d'un moment, pour un petit peu mettre la pression, on va lui montrer les instruments de torture et le bourreau est là. Et on lui explique, voilà, on va utiliser ça pour ça. Et si elle persiste dans son refus, dans son déni, eh bien, on va la torturer. La torture la plus affreuse, c'est de lui attacher les bras derrière, les mains derrière, comme ça les épaules, et puis on la hisse avec une corde sur une poulie vers le haut et on la laisse retomber. Je ne vous dis pas les malheurs des muscles et tout ça, c'est absolument abominable. Ou alors, on va enfermer les pouces dans des systèmes en bois et on va serrer jusqu'à ce que les pouces éclatent. C'est de là que vient l'expression de l'Alsacien « Ebertimla ». Dimla, c'est ça. Ebertimla, c'est ça. Ou alors, les chevilles, on l'empêche de dormir pendant plusieurs nuits. Au bout d'un moment, ben, elle va avouer la personne. Rares sont celles, surtout les femmes, qui résistent. On a quelques exemples de femmes qui ont résisté à la torture, brisées moralement, physiquement, mais elles ont résisté. On ne peut pas, elles n'ont pas fait le Beckentnis, on ne peut pas les exécuter, mais on les enferme dans leur maison jusqu'à la fin de leur vie, où on les exile. Donc, ça, la procédure tout à fait normale, trois fois, hélas. 1600 victimes, c'est un chiffre attesté par les archives. Le Reichsführer Heinrich Himmler avait demandé à une commission de la SS d'enquêter sur les procès de sorcellerie en Allemagne. Et les historiens qui ont pu consulter ces fiches ont pu voir qu'il y avait 30 000 fiches qui ont été réunies. Donc, ce 30 000 personnes qui ont été d'une manière ou d'une autre inquiétées à cause de cela. Alors, comment devient-on une sorcière? Généralement, dans les textes du procès, dans les archives, se passe la chose suivante. Dans un grand moment de détresse affectif, financier, conjugal, souvent la femme dit « Mon mari m'a poursuivi avec une hache, il m'a battu, je ne savais plus où aller, j'étais malheureuse, désespérée. » Entendons à l'arrière-plan ce discours terrible de la situation de la femme qui est malmenée. Le diable va s'approcher de la femme malheureuse sous la forme d'un beau jeune homme. Quand vous connaissez les sculptures, par exemple la sculpture du diable à la cathédrale de Strasbourg, il est très beau. Il montre une pomme, il a une couronne de cheveux, de fleurs dans les cheveux, mais dans l'échancrure de son manteau, il y a des crapauds et des serpents. C'est le séducteur. Der schöne Jüngling, c'est comme ça qu'il est décrit. Il porte de très jolis noms. Hämmerling, Peterlin, Blümling, c'est quand même joli pour un diable, petite fleur. Faderla, hein, petite plume. Federspiel, jeu de plume. Oui, mais c'est un séducteur. Le but, c'est de s'emparer de l'âme de la personne. Il demande à la sorcière, au bout d'un moment, il lui promet de l'or, or qui va se transformer en crottin de chèvre ou en feuille qui disparaissent. Ou alors, il lui demande d'abord de renier Dieu et tous les saints. Rappelons-nous, apostasie. Et puis, une fois qu'elle a accepté, je reconnais que je renie Dieu et tous les saints, il va lui demander de signer un pacte avec son sang. Donc, il lui fait une petite entaille, prend une plume et hop, elle signe. Enfin, généralement, c'est une croix parce que les gens ne savent pas écrire. Enfin, une croix, il vaut mieux éviter parce que ça rappelle le Christ. Mais en tout cas, elle signe. Et donc, maintenant, elle est associée au diable. Il lui donne une bague. Il fête les fiançailles avec lui. Et puis, il donne un certain nombre de pouvoirs. Un onguent, une pommade, un solc, avec une baguette. C'est l'exact inverse de la baguette des fées. Et avec cet onguent et cette baguette, elle va pouvoir, pendant un certain nombre d'années, dites d'impunité, faire le mal. Ça concerne tous les domaines. Rendre les hommes impuissants, nouer l'aiguillette, das Nessel Knüpfen. Ou alors, les femmes deviennent stériles, ce qui est terrible. Il n'y a pas de succession, de descendance, pas de bras qui vont aider aux récoltes, et ainsi de suite. Elles vont détruire les récoltes, elles vont faire en sorte que les vaches ne donnent plus de lait, plus de petits veaux. Enfin, c'est l'absolue catastrophe. Et surtout, vous doutez bien que ce sont les sages-femmes qui sont aux premières loges dans les accusations, puisque c'est elles qui aident au bébé de naître. Et souvent, les bébés meurent parce que l'hygiène est catastrophique. Souvent, les mamans meurent aussi. Il y avait énormément de décès d'enfants. Et bien sûr, on disait que les sages-femmes faisaient volontairement mourir les bébés pour pouvoir ensuite les emporter lors des sabbats, des orgies, et les transformer soit en repas, soit en onguents utilisés pour faire les maléfices. C'est pour cela, dans la tradition orale, nous le savons en Alsace, qu'il était essentiel de baptiser le plus vite possible le petit bébé pour qu'il échappe à ces sorcières qui rôdent autour d'eux. Et quand un bébé était mort, on l'emportait dans un lieu qu'on appelle le sanctuaire de répit. Il y en avait quelques-uns en Alsace, mais surtout du côté du lac de la Mai, vers le Donon. Et suite à un rituel, le petit bébé, il vivait peut-être 30 secondes, le temps de le baptiser, et il était protégé contre les sorciers et les sorcières. La sorcière va donc jeter des sorts sur les humains, sur le bétail, sur les récoltes. Elle a la capacité de se transformer en animal, c'est un des pouvoirs qui lui est donné par le diable. Elle peut dérober sous la forme d'un animal les mets chez les voisins. Leur forme favorite, nous le savons bien, c'est le chat, de préférence noir, mais aussi le chien, le lièvre. Oui, ça peut nous sembler étonnant. Nous qui pensons, croyons, entre guillemets, au lièvre de Pâques, au Strance, eh bien non. Le lièvre est une des formes les plus communes que prennent les sorcières. C'est quand même étonnant. Le canard ou le cheval. Une fois par mois, elle se rend sur son balai, ou sur son chat, ou sur son chien, ou sur sa fourche, au sabbat, qui se déroule toujours à l'extérieur de la commune. Et là, elle va d'abord confesser, faire un rapport d'activité, comme lors d'une assemblée générale. Voilà, je fais ça de mal, je fais ça de mal, je suis content, hein, on y reviendra dans un instant. Et puis elle rencontre d'autres sorciers et sorcières qui vont faire la même chose. Ensuite, il va y avoir un rituel qui peut nous sembler ô combien incongru et incompréhensible. Toutes ces personnes vont être amenées à embrasser le derrière du diable. Ben oui, c'est très présent dans les dessins, et aussi, ben c'est l'inverse d'embrasser l'anneau de l'évêque. C'est exactement ça. Hein, on est dans le monde inversé. C'est une société qui fonctionne à l'envers. Ensuite, un repas sans pain ni sel, vous doutez bien pourquoi. Ensuite, ça c'est le grand fantasme des inquisiteurs et aussi la société civile, la fameuse orgie, qui n'a jamais eu lieu. Alors, à l'arrière-plan, il faut aussi nous représenter la condamnation des veillées. Jeunes gens et jeunes filles se retrouvaient, se fréquentaient, et évidemment, ça c'était mal vu, c'était immoral, et donc, ça fait partie de ces croyances ou de ces représentations, de ces, entre guillemets, orgies. Elle se sépare au moment où le coq chante. Pourquoi ? Parce que le coq qui chante rappelle le reniement de Saint-Pierre. Elles ont renié Dieu et tous les saints. Et elles vont rentrer chez elles avant l'Angélus du matin. On les représente toujours comme échevelées, dans ce laïsa, avec les cheveux, donc parés, noués sous la coiffe, comme toutes les femmes honnêtes, entre guillemets, mariées. Elles ont les cheveux comme ça longs. Or, les cheveux longs étaient portés par les prostituées, les femmes de mauvaise vie, et donc on retrouve ça pour les sorcières. Donc c'est quelque chose d'absolument terrible qui s'est mis progressivement en place. Alors, quelques expressions liées aux sorcières, nous en connaissons tous et toutes. L'Alsacien est riche sur ce plan. Tout le monde connaît l'expression « Ich habe Haxachus », le lumbago ou l'asiatique. Et quand le haxachos, c'est la représentation d'une sorcière qui envoie une flèche dans la hanche d'une autre personne. On a des dessins du 16e. Et puis, on disait aussi parfois, j'ai rencontré un jour un monsieur à Münster qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, on a haxachos, alors une semaine après, il lui dit, on a haxachos, yo, ta chose est forte avec des haxachos. Le coup est parti, mais la sorcière est restée. Bon. Nous connaissons tous l'expression en français, quand on est un peu malmené au niveau de la gorge, avoir un chat dans la gorge. En Alsacien, ils crètent, à crète, ils mangent sous crotte. Avoir un crapaud, un chat, ce sont des animaux diaboliques. Enfin, la Kélidouane porte le nom de Haksamelir, puisqu'on l'utilisait pour lutter contre les verrues, entre autres. Un rond champignon, Shahaksakreis ou Haksaring, parce que les sorcières sont représentées dans ces encercles, ce sont les danses traditionnelles paysannes. Et à l'arrière-plan, représentons-nous aussi le monde des fées qui a été complètement démonisé et qui a été souvent transformé en sorcière. Enfin, quand on fait déjà l'impossible, n'est-ce pas, cher Eugène, et qu'on n'y arrive plus, on dit « Irkon et Taxa ». Et quand rien ne fonctionne comme on veut, c'est Charles Frax. Ou alors quand quelque chose marche d'une manière un peu étrange, c'est Charles Rey, c'est de la sorcellerie. Nous connaissons tous et toutes des personnes qui ont été dénommées de Patrax. Je me souviens à Münster, rue des Clés, une dame qui passait, qui était toujours mal habillée, un peu marginale, un peu bizarre, et on disait « Ah, c'est Chabatrax hein ». Donc voilà. Enfin, le gui, qui pousse comme parasite sur certains arbres, on l'appelle aussi « Draxapas », le balai de la sorcière, vous connaissez ces épis de fer taillés en pointe, comme ça, qui ferment les soupirails, et on les appelle aussi « Draxapas », parce que, justement, ça doit empêcher le chat d'entrer dans la maison. Enfin, les personnes, je m'en excuse auprès des personnes qui auraient éventuellement les cheveux roux ici, dans cette salle, les personnes qui ont les cheveux roux sont de mèche avec le diable. Donc, on les soupçonne déjà d'être un peu des sorciers, des sorcières. Et à Münster, on disait de quelqu'un qui a les cheveux roux, « Tarich futahor safseicht ». Les lièvres lui ont pissé dessus. Bon. Le terme de Hax, on le retrouve d'abord dans la toponymie. Eugène nous a parlé du Haxatorm qui existe à Ingelsa. Presque chaque ville qui avait un mur d'enceinte et donc des tours avait son Haxatorm. Je pense ici à Châtenois, à Célestat, à Rouffat, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples. À Rouffat, vous savez que depuis 1994, il y a maintenant une grande fête de la sorcière. Ça aussi, c'est une invention intéressante. Dans la vallée de Münster, n'est-ce pas, cher Mika, nous avons le Haxa-Platzla au-dessus de Norrstein. Et je me souviens, enfant, quand je montais au Norrstein, que je devais passer à côté du Haxa-Platzla. J'avais toujours peur de rencontrer une sorcière qui n'était pas entrée suffisamment tôt chez elle. Et ainsi de suite, hein, je pourrais faire une longue liste, mais ce n'est pas très intéressant, vous en connaissez beaucoup d'autres. Donc, gardons simplement à l'esprit que c'est quelque chose qui a été complètement fabriqué. Ces orgies, ces rencontres nocturnes qui correspondaient peut-être à des fêtes ou alors des veillées ont été complètement démonisées. Le transport sur un balai, sur une fourche ou alors se déplacer sur un animal, tout ça, ça a été fabriqué de toutes pièces. Il y a des lieux de réunion, nous en connaissons tous, je ne vais pas vous les énumérer, vous les trouverez dans la saison d'Alsace. Il y en a un tout près, hein, c'est le lac Zapari-Heimburg, derrière Ingersheim. Entre Ingersheim et Turkheim, c'est un des hauts lieux de réunion des sorcières de la région. Et pour la vallée de Münster, nous avons entre autres de Stammlespari, qui est un des lieux qui revient dans les procès. Et puis nous avons aussi de Burzelstein, le haut fourneau à côté du Tannet, où c'était le lieu de réunion par excellence des sorcières de la vallée. Sinon, vous avez le Bolapark, au-dessus de Rouffat, ça c'est un des hauts lieux. Et dans le nord de l'Alsace, vous avez le Pastberg, Pochpark, près de Buxwiller, autre haut lieu de réunion des sorcières. Alors, pour se protéger contre les actions des sorcières, premier élément, le signe de croix. Je vous raconte l'expérience que j'ai vécue enfant. Je sors de chez moi, à rue des Clés à Münster, petit protestant dans un quartier catholique, et je me dirige vers l'église catholique. Et je vois un chat noir qui traverse la rue de la droite vers la gauche, qui est déjà mauvais signe. Mais bon, c'est un chat noir pour moi, je cote. Et puis arrive une dame, une voisine que je connaissais, et qui me dit « Hé, je t'y cote ça !» Elle fait trois signes de croix. Et alors, je lui dis « Oui, eh ben, c'est une sorcière, c'est Charax. » Ah bon. Et alors, elle m'a dit « Si tu veux savoir qui c'est, il faut que tu regardes par-dessus l'épaule gauche. » Donc, j'ai regardé, mais heureusement que le chat avait disparu. Vous voyez, donc, ça remonte aux années 59-60. La croyance aux sorcières était encore présente. Elle est toujours présente, mais elle s'est un petit peu cachée en dessous du discours rationnel moderne. Un des moyens de lutter contre les sorcières qui fabriquent des orages, c'est de faire fonctionner les cloches. C'est pour ça que dans le vignoble, les cloches ont une voix qui vont protéger la communauté. C'est pour ça que dans le vignoble, quand il y avait un orage qui approchait, on actionnait les cloches. On appelait ça svadrlita. C'était quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, lors de mes enquêtes, j'ai rencontré une vieille dame qui s'appelait Émilie Spanla, de Overbreitenbach, au-dessus de Breitenbach. Et elle savait beaucoup de choses, elle portait encore le costume traditionnel lors de certains moments de l'année, plus tous les jours. Elle avait 84 ans quand je l'ai rencontrée. Et on a beaucoup discuté, elle m'a beaucoup appris. Et un jour, je lui ai posé la question, mais « Mom sech pas », je vous le dis en alsacien, « Mom sech pas, wenn sind die Hexen verschwunden ?» Quand est-ce que les sorcières ont disparu ? Elle a eu cette phrase absolument magnifique. « Eh ?» Würde die Elektrizität in die Häuser kommen, ist, sind die Hexen verschwunden. Mais c'est magnifique. Quand l'électricité est entrée dans les maisons, les sorcières ont disparu. C'est que l'obscurité a reculé. Et que on s'éclairait avec des bougies, avec des lampes, avec des morceaux de bois. Donc, tout était nimbé, si j'ose dire, entouré d'obscurité. On voyait des fantômes, toutes sortes de monstres, de diable, alors que l'électricité, vous voyez bien comment ça éclaire, ça a permis de lutter contre ces croyances. Mais comment est-ce que ces procès se sont arrêtés ? Donc, 1532-1682. Vous savez qu'à partir de 1648, l'Alsace passe progressivement sous le contrôle de la couronne royale française, un certain Louis XIV. Il va progressivement, donc d'abord il récupère les territoires des Habsbourg sur le côté alsacien, ensuite il va s'emparer des villes de la Décapole, Turckheim, Münster, Colmar et les autres, et ensuite il termine son travail en 1681 par la prise de Strasbourg. Donc l'Alsace passe sous le contrôle de la couronne française, or à partir de ce moment-là, autant il y avait des pouvoirs locaux, ce sont les petits seigneurs dans les lieux d'administration de seigneurie qui géraient en quelque sorte ces procès, qui les organisaient. C'est pour ça que les archives sont conservées dans les lieux de fonctionnement d'administration seigneuriale. Et l'Alsace était une petite mosaïque comme ça de différents territoires. À partir de ce moment-là, il n'aura plus qu'un seul pouvoir, celui du roi. Premier changement. Deuxièmement, 1682. Louis XIV est confronté à un gros souci qu'on va appeler l'affaire des poisons, dont vous avez sûrement entendu parler. Autour de lui, il y a des gens qui s'empoisonnent, on accuse, bon, c'est très complexe, pas le sujet de ce soir. Mais il va être amené dans une réunion de son conseil en 1682 à édicter une loi qui va dire la chose suivante. À partir de maintenant, nul ne pourra être accusé de sorcellerie sauf si on réunit les preuves. Nous sortons de la procédure inquisitoriale, extorquer les aveux, on faut réunir les preuves. Et à partir de ce moment-là, les procès de sorcellerie disparaissent. C'est quand même extraordinaire. C'est certainement un des bénéfices du passage de l'Alsace sous la domination française. Mais en tout cas, tout à coup, il y a encore quelques procès, mais ça s'arrête. On a des exemples de traditions qui ont lieu après. Par exemple, à Turckheim, 1715, il y a des gens qui se réunissent pour faire de la magie, pour avoir des sous dans la jolie porte, le Öltor, la porte du Brandt. Ces personnes, on les réussit à les voir, on s'en empare, elles sont traînées devant le tribunal. Elles ne sont plus accusées de sorcellerie, elles ne risquent plus la peine de mort, mais on les accuse de superstition. Voyez combien le monde, à ce moment-là, a évolué. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître les sorcières ? L'image classique, la voici. Lange Nase, spitze Kinn, sitzt der Teufel zu. Un long nez, un menton pointu, le diable y est installé. Beaucoup de vieilles femmes ont été justement ou plutôt injustement, accusées de sorcellerie parce que tout simplement elles étaient vieilles, fatiguées, elles n'étaient plus très jolies sans doute, ou elles étaient souvent très pauvres, donc mal habillées, et hop, ça suffisait. Et puis, pour connaître les sorciers et les sorcières d'une commune, le mieux, je vous le dis à toute fin utile, c'est de vous rendre à la messe de minuit et d'emporter avec vous un certain nombre d'outils. Le premier outil, c'est un œuf qui a été pondu, qui a été béni le vendredi saint. C'est un œuf qui est censé protéger la maison. Souvent, œuf peint en rouge. On va y percer un trou. Deuxième élément très... Le micro qui fait, me joue des tours. Deuxième élément, vous trouvez en vous promenant dans la nature ou sur les champs une dent de herse et itzan, hein, en bois. Vous y percez un trou et vous l'emportez avec vous lors de la messe de minuit. Ou alors vous réunissez 9 espèces différentes de bois ou 12 bâtons différents et vous emportez le tout à la messe de minuit. Et au moment, vous y percez toujours un trou. Et au moment de l'élévation de l'hostie, eh bien, quand le prêtre élève l'hostie pour la consacrer, tous les sorciers et sorcières du village tournent ostensiblement le dos à l'autel parce qu'ils ne peuvent pas supporter cela, puisque justement, ils ont renié Dieu et tous les saints. Et à ce moment-là, si vous êtes muni de ces objets un peu magiques, vous êtes capable de les voir. Mais il était fortement conseillé de rentrer chez soi avant la fin de la messe de minuit, car sinon, les sorciers et sorcières vous poursuivaient, vous risquez de passer quelques mauvais moments. Si on trouvait un objet à l'extérieur de la maison, il fallait d'abord faire le signe de croix par-dessus, car le mauvais esprit avait peut-être pouvoir sur cet objet. Quand l'angélus avait sonné, on ne devait plus faire quoi que ce soit un chat avec la main droite ou le pied droit, mais uniquement avec la gauche, car sinon le mauvais esprit avait tout pouvoir sur vous. C'est exactement aussi le cas quand vous rencontrez un lièvre en sortant de votre maison après l'angélus du soir. Il était recommandé, si vous étiez obligé en tant que femme de sortir de la maison après l'angélus, de sortir avec votre tablier. Ainsi, aucun mauvais esprit ne pouvait vous attaquer puisque le tablier, c'est le symbole de l'exercice ménager de la femme dans la maison. Et ainsi de suite, il y a énormément de précautions qu'il fallait respecter. Partons maintenant, nous avons encore un petit peu de temps, dans le domaine du légendaire. Quand les légendes ont commencé à être collectées au XIXe siècle, entre autres par Auguste Teubre, bien sûr, les sorcières étaient très présentes. On parlait encore beaucoup des sorcières. Mais la façon de se représenter les sorcières avait complètement changé. Il n'y avait plus d'orgies telles qu'elles étaient fantasmées par les inquisiteurs et après par la société civile. Il y avait des rencontres au Bollenberg, au Wurzelstein, au Basberg, mais c'était de belles réunions avec des gens bien habillés, on mangeait de bonnes choses, on buvait de bonnes choses, et de temps en temps, quelqu'un qui n'était pas au courant passait par là, et puis était invité à parler un verre de vin ou bien autre chose, mais tout à coup, il y avait un monsieur bien habillé, portant bien, comme on dit, ou portant beau, qui lui proposait de signer un livre. Et là, la personne se disait « Oh non, là, c'est louche ». Généralement, il signait « Jesus ist mein Herr » et tout disparaissait instantanément. Et il se retrouvait au sommet du Bollenberg ou du Wurzelstein ou encore au Basberg, dans les ronces, en pleine nuit, il ne comprenait pas trop ce qui venait de lui arriver. Et souvent, la coupe de vin qu'il tenait avant dans la main, c'était un chat qu'il mordait, le griffait. Et parfois, il tenait aussi un livre, et dans ce livre, il y avait la liste de tous les sorciers et sorcières du village qui s'empressaient d'apporter à M. le pasteur, le curé, pour qu'il soit brûlé. Donc, ce contexte orgiaque avait complètement disparu. Par contre, ce qui est resté, les maléfices et cette capacité de se transformer en animal. Et de préférence, le chat noir, dit Schwarzkopf. Ce chat extraordinaire avec ses yeux d'émeraude qui peut voir la nuit. Il est donc associé au monde des ténèbres, au monde du diable. Et c'est une des formes favorites que, dans les croyances, les chats, les sorcières prennent. Un exemple qui vient de la vallée de Munster, à Oberbreitenbach, dans une ferme, le paysan avait l'habitude d'aller toujours vérifier, avant d'aller se coucher, si son bétail se portait bien. Et chaque fois, il y avait un chat noir qui le suivait. Et ça a commencé tout doucement à l'énerver, c'est comme cela que nous sommes au fichikan, comme nous disons en alsacien. Puis ce chat noir, il était tout le temps entre ses jambes. Il en avait marre. Et pourquoi il apparaît à ce moment-là, il disparaît tout à coup. Et puis au bout d'un moment, il ne l'a plus supporté. Et il a pris un bâton qui était là dans l'étable et a voulu donner un coup au chat. Et tout à coup, le chat s'est redressé, s'est transformé en une vieille femme en lui disant « Ne fais jamais ça, car sinon il t'arrivera malheur. » Le pauvre, il avait compris qu'il avait affaire à une sorcière. Autre histoire qui se déroule à Horoth. Un jeune homme de Munster était tombé amoureux, tant mieux pour lui, d'une très belle jeune femme rousse. Vous rappelez que les roux sont plutôt mal vus. Ils sont de mèche avec le diable. Et un soir, c'était la tradition, il est monté à pied à Horoth. À ce moment-là, pour faire sa cour, on montait sur une échelle jusqu'à la chambre de la jeune femme, qui avait les fenêtres ouvertes, ou une vitre de cassée. La jeune femme était couchée dans son lit, on appelle ça Fenstern. Dans les traditions de la Main du Sud, chez nous, dans la vallée de Munster, ça se faisait aussi. Schwammen, ça s'appelait. Et puis, lui, il était sur l'échelle, et puis la jeune fille, dans son lit, discutait. Généralement, ça n'allait jamais plus loin. Rarement. Et voilà que ce soir, le jeune homme, il vient à Horoth, il se trouve devant la maison où il a sa belle, et il appelle, avant de monter l'échelle quand même. Aucune réponse. Bon. Il appelle plusieurs fois, il commence à monter, il se dit, elle dort peut-être, elle ne m'entend pas, et tout à coup, il y a un chat roux, magnifique, qui monte, l'échelle entre dans la chambre et il entend soudain la voix de sa fiancée. Et se dit, yes, Scott, c'est une sorcière. Il a rebroussé chemin depuis ce jour, il ne peut jamais aller retrouver sa belle. Est-ce qu'elle était une sorcière? Cela reste évidemment à démontrer. Donc les sorcières peuvent se transformer, selon la croyance, en chat. Ça, c'est une des croyances les plus communes. Mais elles peuvent aussi se transformer en chien. Mon père m'a raconté cette histoire parce que sa maman était originaire de Lutapam, Frunzal. C'était la chose suivante. C'était avant la Première Guerre mondiale. Des gens étaient assis, c'était en été, sur des bancs devant leur maison, et puis on discutait de ci, de ça, de tout ce qui se passe. Il n'y avait pas la télé ou Internet comme aujourd'hui. Et puis tout le temps, il y avait un chien noir qui tournait autour d'eux, comme s'il les espionnait. Et les gens disaient, qu'est-ce qui se passe avec ce chien? Puis ils le voyaient qui passe, qui passe. Puis au bout d'un moment, ils en ont eu marre, et quelqu'un a ramassé un caillou et l'a jeté vers le chien qui s'est enfui en hurlant. Tiens, bizarre! Le lendemain matin, une des voisines avait la tête bandée. C'était certainement la sorcière. Mais oui, mais voilà, vous voyez comment fonctionne la croyance. Il n'y a certainement aucune relation entre les deux, mais on va se dire, c'était elle qui nous espionnait, si Shahaksé. Bon, il n'y avait plus de procès, heureusement. Le lièvre est une des formes privilégiées que prennent les sorcières. Et ça peut nous étonner parce qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre parler du lièvre. Et souvent, ces lièvres, ils ont trois pattes. Ce sont des lièvres démoniaques. Et je m'interroge depuis longtemps sur la symbolique du lièvre de Pâques avec tout cet arrière-plan un peu sombre. Sans tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un chasseur. Un chasseur qui sortait volontiers avec son chien, qui était un très bon chasseur aussi, et ils avaient remarqué qu'il y avait un lièvre qui les narguait. Quand ils sortaient un peu sur les champs, il y avait un lièvre qui était toujours là, avec ses deux oreilles, qui le regardait comme ça. Puis le chasseur dit, « Oh, dans ma fait chuchon, et puis il a pris son fusil, il a tiré un coup, le lièvre, il s'est secoué les poils, et puis il est parti. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre quand même. Il a essayé 3, 4, 5 fois. Ça ne marchait pas, le lièvre, il les narguait toujours, il avait beau lui tirer dessus, les balles n'avaient aucun effet. Mm-hmm. Il s'est dit, c'est peut-être une sorcière. Alors il a fait venir une balle en argent par monsieur le curé, il a mis la balle dans son fusil, et quand il est de nouveau sorti, il a de nouveau vu le lièvre. Et il l'a épaulé et s'apprêta à tirer dessus. Quand tout à coup, le lièvre s'est levé, il a reconnu une vieille femme du village. Il a dit, non, tu ne tireras pas sur une vieille femme avec son fusil. Et en plus, c'était une voisine, donc il a été surpris de voir que sa voisine était une sorcière. À Buxwiller, on raconte l'histoire suivante, tout à fait extraordinaire. C'est un paysan qui avait deux chevaux, parfois, je ne sais pas si Yertol, c'est un rose pur, ce qui était considéré comme riche. Et ce paysan s'était couché, et tout à coup il entend des hennissements qui viennent de son écurie, des coups de sabot, il se dit, voici, Ichten de l'Ose. Il va regarder et puis il voit qu'entre ces deux chevaux qui écument, donc ils sont sous stress, il y a un cheval tout noir. Tu dis, mais ce cheval tout noir, je ne l'ai jamais vu. Et il remarque que ce cheval tout noir, en plus, il n'a pas de fer au pied. Il faut savoir que les démons ont horreur du fer. Et il se dit, ah, tu es chef Snikon Scottolich. Il y a quelque chose de pas très catholique ou d'orthodoxe, comme vous le protestant. Et il se dit, attends seulement, toi, je vais te coincer. Alors il essaie de l'attraper, mais il s'enfuit. Mais il prépare son coup. Il va voir son voisin, le forgeron, lui dit, écoute. Il y a un cheval, certainement une sorcière, qui entre dans mon écurie, qui fait du mal à mes chevaux. Il est mort, il les fait se battre, ça ne va pas. On va lui préparer un piège, et prévient les voisins. Et voici qu'une semaine plus tard, eh bien, ce cheval noir est de nouveau dans l'écurie. Il est de nouveau en train de mordre les chevaux, de les embêter, donner des coups de sabot, et les autres se défendent aussi bien que possible. Mais alors, ils ont prévu le coup, réussissent à l'attraper avec une corde autour du cou et le traînent de force chez le forgeron en pleine nuit. Le forgeron allume son feu et il met deux fers devant et deux fers derrière à ce cheval noir. Tout le monde rentre, on laisse le cheval dans l'écurie. Le lendemain matin, le paysan se lève et il voit à côté de sa maison un attroupement. Et c'est Chetz de l'os. Il entend des gémissements qui viennent de la fenêtre du voisin. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant, non? Ah ben, quand ton voisin s'est réveillé ce matin, il a trouvé son épouse dans le lit avec deux fers à cheval aux mains et deux fers à cheval aux pieds. Voilà, c'était la sorcière. Vous voyez donc, voilà comment fonctionnent les croyances. Nous avons parlé de Hansel et Gretel. Voici une vieille femme, une sorcière qui n'a que un seul objectif, un seul but, c'est de manger les petits-enfants. Rappelons-nous cette accusation contre les sorciers et les sorcières, ils dévorent les petits-enfants. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. À Oberbreitenbach, on va de nouveau y revenir, au sud de Breitenbach, dans la vallée de Münster, habitait une vieille femme qui s'appelait Tissebra. Et cette Tissebra, elle était crainte, on disait que c'était une sorcière, mais les gens disaient, oh, Olli Freud, je te regarde. Et puis un jour, voilà que deux gamins montent de Breitenbach et à côté de la maison de cette vieille femme, au Breitenbach, c'est un petit hameau tout à fait charmant, il y avait de beaux cerisiers couverts de cerises absolument délicieuses. Et évidemment, quand les deux garçons ont vu ça, ils se sont dit, hop, on va en cueillir, on va les croquer. Ils montent sur l'arbre et au moment où ils commencent à cueillir les cerises, ils se payent des coups de bâton sur la tête, sur les fesses, sur le dos, partout. Ils se mettent à hurler et à s'enfuir en courant parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Alors, un voisin avait vu la fameuse Tissebra. Quand elle a vu de loin les deux gamins sur son arbre en train de manger les bonnes cerises, elle avait pris un bâton et elle avait frappé de toutes ses forces dans les flammes du foyer. Et chaque fois que le bâton tombait dans les flammes du foyer, il atteignait une partie du corps des deux gamins. Depuis ce jour, aucun jeune de Breitenbach n'est allé cueillir des cerises sur l'arbre. Alors, les sorciers et sorcières ont aussi la capacité de transformer un être humain dans un animal. Voici l'histoire, je la trouve extraordinaire parce qu'on la trouve aussi dans le pays de Bade et en Suisse, d'un jeune homme qui avait été embêché par un meunier. Ce jeune homme aimait bien travailler avec ce meunier, il aimait un peu, beaucoup, la jeune femme, la fille du meunier, il était un peu amoureux d'elle, et évidemment elle la surveillait dans ses allées et venues, de temps en temps elle lui témoignait d'affection, et puis il remarquait que tous les vendredis soirs, la meunière et la fille se rendaient dans la vieille cuisine, à côté de la maison, et qu'elles disparaissaient. Elle se dit, oh, c'est Ichtelos. Alors il a voulu avoir le cœur net, ce qu'il ne faut jamais faire, et il est allé les observer. Il a regardé, il y avait une fenêtre qui était un peu ébréchée, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la vieille femme prendre un pot sur la cheminée, en sortir un onguent tout noir, et s'en enduire les avant-bras et s'en enduire les chevilles. Prendre un balai qui était dans un coin, s'approcher de la cheminée, dire « Auf und davon, stoß nicht dann jou !» Elle disparaissait. Quand il a vu ça, il s'est dit « Auf Vertegel, ahax !» Enfin, je ne sais pas s'il a dit ça, mais c'était ce qui s'est passé. Et donc, il voit la belle qu'il aime tendrement, bon, il ne sait pas trop est-ce qu'il va le dire ou pas, faire la même chose. Elle disparaît. Il s'est dit « Je veux savoir où elle se rend. » Il était un peu jaloux. Il entre, parce que la porte était ouverte, évidemment, elle ne se doutait pas qu'il était là en train de les surveiller. Et puis, il fait les mêmes gestes, il s'enduit les avant-bras, ça sent mauvais, c'est affreux, mais bon, les chevilles, il prend le dernier bâton qu'il trouve, se met devant la cheminée, mais il n'avait pas eu le temps de répéter, il n'avait pas suivi la formation, n'est-ce pas, chère Monique? Et puis, il dit « Auf und davon stoß überall an !» Vers le haut et au loin, et heurte-toi partout. Yes, ce n'est le pauvre gars. Quand il est sorti de la cheminée, il avait des bosses partout. Et voilà, avec son balai qui fend l'air. Il a peur, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Au loin, il voit des flammes sur une colline, c'était le Basse-Berg, et tout à coup, pataboum, il tombe en plein sabbat de sorcières. Tout le monde sursaute. Évidemment, il ne fallait pas qu'un étranger les voie, parce qu'il pouvait les dénoncer. Aussitôt, le ligote un arbre et on se réunit. Qu'est-ce qu'on va faire de ce jeune homme? Il mérite la mort. Alors la jeune fille intervient en disant « Non, je pense que c'est à cause de moi qu'il nous a suivis. Je vous propose autre chose. On va le transformer en âne. Il va garder ses pensées humaines, mais il ne pourra plus parler. Il ne parlera que des « Oh !» Tout le monde est d'accord. Elle s'approche de lui, qui est attaché à un arbre, et lui dit « Voilà. » Tout le monde voulait que tu meures, mais moi je ne veux pas. Tu vas être transformé en âne. Mais si tu réussis à boire une gorgée d'eau bénite en passant à côté d'une église, tu retrouveras ta forme humaine. Le coq chante, tout le monde disparaît. Et le jeune homme, il est là. Il se demande bien ce qui va lui arriver. Tout à coup, il sent comment ses doigts commencent à se soulever, ses orteils. Il sent que les oreilles lui poussent, il a un museau d'âne et il se retrouve à quatre pattes, c'est un âne. Mais il n'a pas de signe de propriété, donc un vigneron qui habitait aux alentours monte, il voit cet âne, ah, il n'a pas de signe de propriété, hop, il m'appartient. Il le prend et le pauvre âne, pendant 3 ans, il doit travailler dur. Et chaque fois qu'il veut dire qu'il est un humain, ben, il n'arrive qu'à dire « hi, oh ». Il a passé ainsi 3 années et puis au bout d'un moment, il a eu de la chance. Ce matin-là, c'était la veille d'un grand jour de fête religieuse. Le sacristain avait ouvert les portes de l'église, il était en train de bailler, il avait mis de l'eau bénite dans le bénitier, et le petit âne lourdement chargé a échappé au contrôle de son maître. Il a couru, couru, tout le monde a crié en voyant cet âne entrer dans l'église. Il a bu une bonne gorgée d'eau bénite et hop, il s'est retrouvé instantanément sous la forme d'un être humain. Et tout le monde a poussé des O et des A en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Mais alors il a raconté, il n'a jamais dénoncé qui que ce soit, mais on racontait que même de longues années après, une fois qu'il avait retrouvé sa forme humaine, eh bien, chaque fois qu'il racontait cette histoire, les oreilles se mettaient à lui pousser. Encore, on va bientôt terminer, un autre récit que je trouve très intéressant, ça se passe du côté de Rombard-le-Franc, à l'entrée de la vallée de la Lièvre. Et il y a là-bas un endroit qui s'appelle la Hingrie. C'est de là où partaient souvent les jeunes gens qui ne voulaient pas être incorporés de force dans l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que la frontière lorraine n'est pas très loin. Et voilà que deux jeunes gens décident, dans le Val-de-Villers, de chercher fortune. Ils s'en vont ensemble, et ils entrent du côté de Rombard. Ils vont au fond de cette petite vallée, mais l'un des deux marche très vite. Il a envie de faire très vite fortune et l'autre se dit, oh, tout de suite, hein. Que ce soit arrive demain ou après-demain, peu importe. Il commence à faire nuit. Il y avait là un chêne qu'on appelle creux chêne parce qu'il y avait un grand trou dans l'écorce. Et il se dit, je vais passer la nuit. Si c'était un été, il faisait bon, pas de souci. Il se couche sous l'arbre et tout à coup, il entend du bruit comme une tempête. Chou! Ça bouge dans les branches. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était toutes les sorcières de la région qui s'étaient réunies sur les branches de l'arbre. Et lui, il était dessous, il n'était pas tranquille, vous en doutez bien. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je reste le plus silencieux possible. Et voici que chacune de ces sorcières fait son rapport en disant, moi je fais ci, moi je fais ça. Puis une des sorcières dit, moi je fais encore mieux. Vous savez bien que le duc de Lorraine, à Nancy, dans son palais, il a une très belle fille. Eh bien, cette fille est paralysée depuis longtemps. Elle ne peut plus bouger. C'est moi qui lui ai jeté un sort. Et tout le monde applaudit. Et notre sorcière dit, ha! On pourrait la guérir, mais personne ne le sait. Le jeune homme était en dessous, il l'entendait. Il suffirait de lui donner à manger un cœur de poulain blanc qui n'a jamais été monté et qui a été cuit sans sel ni épices et retrouvera instantanément l'usage de ses jambes. Ça continue, le jeune homme a peur d'être découvert. Enfin, le soleil se lève, le coq chante, joue, les sorcières disparaissent. Il continue son chemin, arrive à Nancy, demande à voir le duc, et vous doutez bien de ce qui arrive. Grâce à la guérison de la jeune princesse, il peut l'épouser. Le bonheur suprême, il a fait fortune. Voici qu'un jour, dans son carrosse, il traverse Nancy et voit au bord du chemin, bord de la rue, un homme mal habillé, pauvre, qu'il regarde, qu'il implore en tendant la main. Et tout à coup, il se dit, mais c'est toi, c'est toi. Il reconnaît son copain qui était tellement... une sorcière qui m'a réussi à me coincer. Et le Penforchorax, c'est l'Evreugène. Et donc, c'était son copain qui, lui, n'avait absolument pas fait fortune. Il m'a dit, mais comment est-ce que tu as pu épouser la princesse? Mais, écoute, voilà ce qui m'est arrivé. J'étais sous le crochène, les sorcières sont arrivées, ils ont dit quelque chose, moi je l'ai épousé, ensuite je l'ai appliqué. Et se dit, celui-là, moi je veux faire la même chose. Je veux aussi connaître la chance et la fortune. Voilà donc qui va au crochène, il se met sous l'arbre, les sorcières arrivent, et tout à coup, la cheftaine des sorcières dit, écoutez, mes amis, la fille du duc de Nancy a été guérie. Je suis sûr que quelqu'un nous a observés et nous a espionnés et a entendu la formule magique qui permettait de la guérir. Regardons s'il n'y a pas un espion sous l'arbre. Elle tombe sur ce jeune homme et le pauvre le font danser jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement. Nous arrivons maintenant tout doucement à la fin de notre exposé. Je voudrais vous raconter une dernière histoire que je trouve tout à fait délicieuse. C'est l'histoire de Catherine et de la hache volée. Ça se déroule à Mkavilrtol. C'est à côté de Bulle, une ferme sur la montagne. On racontait partout que le monsieur qui habitait dans cette ferme, avec son épouse Catherine, qui était connue dans toute la vallée pour avoir une langue extrêmement effilée, c'était un peu un sorcier. Pourquoi? Car quand quelque chose lui était volé, eh bien, il faisait tourner une roue. Vous savez, ces meules en grès rose qu'on trouvait dans les fermes pour affûter les outils. Et quand il tournait en récitant une formule, ben, la personne qui avait volé était obligée de ramener l'objet. Et voilà qu'un jour, ils ont accueilli beaucoup de monde dans la ferme. C'était une grande fête, c'était bien amusé. Et le lendemain matin, quand le fermier a voulu utiliser sa hache pour couper un arbre, elle avait pris des jambes. Il sort sa meule, hein, qui est sur un système en bois, et commence à tourner. Mais à ce moment-là, son épouse Catherine était au marché de Kaaviller. Elle avait fait des emplettes, parce qu'ils avaient quand même besoin de reconstituer un peu leurs provisions. Et puis, la voilà qui remonte tout doucement vers leur ferme à côté de Bulle, sur la colline. Et le fermier fait tourner la meule. Et voilà que le voleur qui avait emporté la hache, il l'avait accroché à un mur de l'intérieur de sa maison, il voit la hache qui commence à bouger. La hache, elle commence à voler dans la chambre, il se dit, oh, Fortegliet, c'est Sport Schlimm. Elle commence à bouger, elle vole dans tous les sens, elle dit, mais comment je peux m'en débarrasser? Et voilà que la Catherine, elle passe à côté, Il ouvre la fenêtre, la porte, plutôt, il sort avec la hache, sous un prétexte quelconque, lui dit « Ah tiens, écoute, tu sais, j'ai retrouvé la hache qui certainement vous a été volée. » Et puis la Catherine, elle sent qu'une force la tire, elle marche de plus en plus vite avec ses paniers remplis de provisions, elle court avec la hache, elle court, elle n'en peut plus, elle n'arrive presque plus à respirer, elle tombe par terre à l'entrée de la ferme, épuisée. Elle n'avait presque plus de souffle, mais la hache était revenue. On raconte qu'à partir de ce jour, on pouvait voler n'importe quel objet dans la ferme. Le fermier n'utilisait plus son tour magique, de peur de voir revenir une langue effilée. Merci de votre attention.
Merci à Gérard, hein, parce qu'une fois de plus, il a su nous captiver, là, parce que c'est surtout les histoires de la fin, là, de la deuxième partie, je dirais, qui ont intéressé beaucoup de monde, puisque on entendait des rires dans la salle.
Mais oui, tant mieux.
Alors, est-ce que vous avez, on va jouer aux questions-réponses, est-ce que vous avez des questions à poser? C'est la première qui coûte et puis après ça va tout seul. Qui c'est qui veut poser une question concernant ce...
Je peux peut-être ajouter quelque chose, cher Eugène, c'est que vous savez, mais certainement qu'il existe des livres sorciers en Alsace. Le plus célèbre, mais le moins connu, parce que moi on le connaît plus, on peut fantasmer dessus, c'est celui-là que j'ai apporté, le Heilig, le Geistliche Schild. J'ai pu m'en procurer il y a quelque temps un exemplaire avec le sceau du diable. Vous voyez, trois sceaux noirs, il paraît que c'est le sceau du diable, pourquoi pas. Et ça, c'est donc on disait dans les milieux catholiques que celui, c'est un livre qui a été interdit par l'Église, mais qui circulait sous le manteau. Celui qui possédait un tel ouvrage ne pouvait pas mourir sans l'avoir transmis. Deuxièmement, il peut exister dans un format beaucoup plus petit. Il suffisait de prendre un cahier, hein, ça se détache, et de l'emporter avec soi, de le mettre sous la nappe de l'autel de l'église. Et si par malheur, monsieur le curé bénissait l'autel avec un morceau du Geistliche Schild, le Geistliche Schild prenait encore plus de pouvoir. C'est pour ça qu'on dit que monsieur le curé, quand il fait la messe, il passe toujours les mains sur la nappe de l'autel. Ben oui, pour sentir Einstein.
Oui, c'est exact, c'est absolument exact.
Ben oui.
Et vous verrez toujours le curé qui écarte s'il n'y a pas de Geistliche Schild en dessous de...
Et alors, je me suis amusé à le lire, j'en ai même fait une traduction qui malheureusement a été épuisée, pendant un jour la rééditer, et je vous assure, en lisant ça, je me dis, mais c'est pas possible, on dit que c'est un livre de sorcellerie, il n'y a absolument rien, ce sont des prières, sauf... le cinquième chapitre où, entre autres, il y a des formules. Si quelqu'un me vole quelque chose, voilà comment récupérer mon bien. Mais c'est tout. Donc, on a, un peu comme les fantasmes des procès de sorcellerie ou de ces sapins, on a fabriqué tout un fantasme autour de ce livre, alors que franchement, le contenu, c'est tout sauf ça. Alors, il y a un deuxième ouvrage, je l'ai apporté. Celui-là, il est un peu plus sorcier. Ça s'appelle... le sixième et septième livre de Moïse, Sechstes und siebentes Buch Moses, ça vraiment c'est déjà quelque chose d'un peu plus sorcier puisque vous avez des formules avec des comment contraindre un démon de l'enfer pour vous venir en aide pour découvrir tel ou tel trésor. Alors c'est absolument amusant à lire, hein, c'est pas possible, vous avez des formules là-dedans, c'est vraiment, vous voyez, par exemple, là, vous avez une image qui représente un diable. Il est mignon tout à fait, hein, il me laisse tranquille, il ne m'a jamais fait de mal. Mais voilà, on était convaincus du pouvoir de ces ouvrages et de ceux qui les utilisent. Donc, le fameux Geistliche Schild, qui est là, vous pourrez le regarder après, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui faisait partie de la croyance populaire en Alsace, et particulièrement, mais pas uniquement, dans le Sundgau, puisque le docteur Katsuk en parle. Enfin, je voudrais ajouter que Sébastien de Gortz a réédité le livre de Rodolphe Reuss, qui est la meilleure synthèse qui existe sur les procès de sorcellerie en Alsace. Elle date de 1871. J'ai écrit une introduction. Vous pourrez, si ça vous intéresse, l'acquérir ici. C'est vraiment l'ouvrage de référence sur la question. Voilà, en tout cas, ce que je tenais à vous dire.
Et, peut-être dire un mot. Je m'appelle Sébastien Degor, je fais des livres à Münster en indépendant. Donc mes livres sont dans toute l'Alsace. Je travaille avec Gérard depuis 2015. On s'est rencontrés dès le début. J'ai fait une histoire de l'abbaye de Münster et puis on a commencé à collaborer. Donc j'ai emmené le livre sur la sorcellerie ce soir parce que c'est le livre. Vraiment, il fait le tour de la question. C'est un livre central sur le sujet. Et j'ai aussi emmené les contes populaires alsaciens que Gérard a traduit. Donc c'est une version intéressante avec en page de gauche les textes tels qu'ils nous sont parvenus. C'est les seuls contes populaires qui nous soient parvenus. On peut écrire des contes, on peut glaner des légendes, mais les contes populaires tels que les anciens se les racontaient, Gérard, c'est les seuls.
Oui, oui.
Donc en français ou en alsacien ou en allemand. Et en première édition, un livre sur les légendes de serpents, dragons et crapauds en Alsace de Gérard Lézerne. Qui est là, donc si vous voulez, vous pouvez le faire dédicacer, c'est l'occasion.
Tout à fait.
J'espère que la conférence vous a plu. Gérard.
Oui.
Merci.
Merci. Merci de votre écoute.